Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM. Comme chaque mercredi, vous retrouvez à 17h30 le magazine USTL Info. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Durier, qui est directeur de recherche au CNRS et chargé de recherche SHS à Lille. Donc, on va parler des recherches menées à Lille dans le domaine des sciences de l'homme et de la société. Bonjour, monsieur Durier.
Bonjour.
Voilà, donc les sciences de l'homme et de la société, c'est une appellation qui date de quelle époque à peu près ?
Oh là là, je ne sais pas bien à quelle époque. On a pris l'habitude d'ajouter sciences de l'homme et de la société sans que ce soit des appellations très, très repérées. C'est-à-dire que si on dit que la psychologie, c'est plutôt une science de l'homme et la sociologie, une science de la société, on est bien en peine de dire si l'histoire est une science de l'homme et de la société. Disons qu'on raisonne à très grands traits lorsque l'on parle de sciences de l'homme et de la société. Disons qu'à l'Université des sciences et technologies de Lille, l'USTL, ce sont plutôt les sciences dites sciences sociales qui sont présentes, puisqu'il s'agit de la science économique, de la géographie, des sciences de gestion, des sciences de l'éducation et de la sociologie et de l'anthropologie. Donc, mais il y a aussi de la préhistoire. Le reste, une science de l'homme, une science de la société, c'est l'homme dans la société, toujours, forcément.
Alors, vous animez un laboratoire de recherche, on peut peut-être le présenter ?
Alors, je n'anime pas un laboratoire de recherche. Je dirigeais dans le passé un laboratoire qui est le Centre Lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques, le CLERCE, qui est un des gros laboratoires de notre université. Mais depuis, il y a un autre directeur, Dominique Dupré, qui était sociologue, et maintenant Nicolas Vaneclos, depuis quelques mois, économiste, dirige ce laboratoire. Mais je l'ai dirigé, donc je le connais particulièrement bien, puisqu'il réunit, et c'est une particularité en France, à la fois des sociologues, des anthropologues et des économistes. Et souvent d'ailleurs, donc les économistes et sociologues ne sont pas dans les mêmes équipes de recherche, et souvent d'ailleurs également, les économistes et les sociologues ne sont pas dans les mêmes universités. Donc c'est une particularité de l'USTL que de réunir en son sein et dans la même laboratoire et dans une même composante, une même faculté, la faculté des sciences économiques et sociales, des sociologues et des économistes. C'est sans doute un atout de notre université.
Alors, c'est vrai qu'on a l'impression que sociologie et économie ne vont pas très bien ensemble. Souvent, les problèmes économiques mettent en évidence des problèmes sociaux, voire les induisent. Alors, comment ça se passe, les relations entre des sociologues et des économistes ?
C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas des questions qui sont économiques et des questions qui sont sociologiques. Je pense qu'une même question peut être abordée à la fois par des sociologues et des économistes. Je pense qu'il faut être fidèle à cette idée qu'une discipline se définit non pas d'abord par son domaine, mais par son point de vue. Et donc, si je travaille sur, par exemple, le chômage ou sur les prix, on pourra avoir une approche économique du chômage ou une approche économique des prix, mais aussi une approche sociologique des mêmes questions.
Vous voulez dire que c'est un petit peu la même méthode de travail ?
Pas forcément, puisqu'il y a des traditions qui font que les disciplines ont des méthodes différentes. Le recours aux chiffres n'est pas le même. Évidemment, en économie, on aura beaucoup recours à la quantification, bien entendu, moins qu'en sociologie ou en anthropologie, mais n'empêche que aussi en sociologie, en économie et en anthropologie, on utilisera le chiffre. Mais disons que il y a des traditions différentes dans les façons de faire, mais il n'y a pas forcément de démarches différentes. Je crois que ce qui différencie les démarches, ce sont les approches théoriques des questions qu'on aborde.
Est-ce qu'il y a différentes écoles, différentes approches, différentes théories, soit de l'économie, soit de la sociologie ?
Ah oui, dans chacune des disciplines, et ça sera vrai aussi en psychologie ou dans d'autres, ou en histoire, bien entendu, ce sont une différenciation interne à la discipline est souvent plus importante que les différenciations entre disciplines. Il y a effectivement des sociologies, par exemple, si je prends l'exemple de la sociologie que je connais mieux, parce que je suis sociologue, des théories qui abordent les rapports sociaux de façon très différente. Si vous avez, bon, si je cite des noms de sociologues qui sont connus, un Pierre Bourdieu qui se traduit peu ou prou dans une tradition qui a à voir avec le marxisme, si on peut dire, et puis un sociologue qui s'appelle René Boudon, qui est lui plus, qui considérera, il mettra d'abord l'individu dans son approche sociologique. Sa démarche, c'est celle qu'on appelle l'individualisme méthodologique. Donc je considère l'individu, je vois comment les individus, lorsqu'ils se regroupent, disons, se comportent, et j'en déduis des lois, disons, plus générales pour l'homme en société. Alors que d'autres vont mettre en avant plutôt la structure sociale ou les rapports entre classes sociales, par exemple, dans leur rapport de distinction ou de compétition. Et donc l'approche ne sera pas la même et les résultats des démarches ne sont pas non plus forcément les mêmes.
Alors, ces théories ou ces mouvements, j'allais dire ces courants de pensée, parfois peuvent s'opposer. Comment ça peut cohabiter dans une même université ?
Alors, souvent dans des laboratoires, on a une pensée qui domine. Donc il y a des laboratoires qui sont liés très fortement à leurs fondateurs, souvent. Donc quand un sociologue ou un économiste fonde une équipe, il la fonde dans une orientation. Bon, Alain Touraine, autre sociologue connu, a créé un laboratoire, et donc c'est un laboratoire qui s'inspire de sa démarche. C'est une sans doute particularité de notre université, c'est qu'effectivement coexistent dans nos laboratoires et a fortiori dans notre université des options différentes. On ne peut pas caractériser, il n'y a pas une orientation qui domine dans nos laboratoires. Ce qui veut dire que les rapports entre les collègues ne sont pas toujours aisés, c'est-à-dire qu'il y a des affrontements, effectivement, discussions, et c'est ça qui fait sans doute aussi avancer la réflexion. Entre économistes, par exemple, il y a entre ce qu'on appelle l'économie dite orthodoxe, néoclassique pour ceux qui s'y connaissent bien, et l'économie hétérodoxe, des conflits importants dans les analyses. Et donc, évidemment, aussi des incidences politiques, puisque si on s'inspire d'une approche ou de l'autre, on aura tendance à mettre l'accent sur une des politiques de transformation sociale différentes.
Alors, ces moments de confrontation, sinon d'affrontation, est-ce qu'il y a des lieux, des espaces qui permettent d'échanger, de débattre, voire même en public ?
Alors, je pense que d'abord, il y a d'abord des lieux de confrontation qui sont dans nos structures. Mm-hmm. Bon, quand ça se passe bien, quelquefois ça ne passe pas toujours bien, il faut le reconnaître, mais dans nos séminaires, ce sont des lieux de discussion, à la fois en interne et en invitant des collègues. C'est dans les colloques aussi que se passent ces lieux de confrontation. Et puis, au sein du public, effectivement, lorsque vous voyez actuellement des collègues économistes qui prennent position sur les façons de financer les retraites, vous avez là donc des débats publics, y compris entre économistes, pour analyser sans doute les choses de façon différente et surtout faire des propositions, disons, d'orientation différentes.
Je suppose que les syndicats sont assez sensibles à ces débats, puisque ils ont aussi leur courant de pensée, sinon leur philosophie.
Alors, bon, ça c'est vrai. Et donc, c'est intéressant de voir comment les syndicats, parfois aussi les partis politiques, il faut dire, vont faire appel à des spécialistes de ces disciplines pour éclairer leur lanterne. Alors selon, ça dépend. Soit il faut donner des gages de bonne orientation pour être conseillé ou consulté, enfin disons être consulté, soit les positions des organisations sont plus ouvertes et donc ils étendent leur consultation à des gens qui ont des options très différentes. Ça dépend un peu des organisations. Et ça dépend aussi du moment de l'histoire, c'est-à-dire que les organisations syndicales évoluent elles aussi. Donc voilà. Si on voit par exemple la CGT, sans doute que les positions d'ouverture de la CGT sont plus grandes, disons, à des gens d'orientation différents, sont sans doute plus grandes maintenant qu'elles l'ont été par le passé.
Alors, pour parler de l'histoire, est-ce que la façon d'aborder l'histoire évolue, et voire évolue vite en nos périodes où les temps changent?
Alors je ne suis pas historien, même si je fais un peu d'histoire. Je pense qu'il y a eu des conflits importants avec notamment des orientations conflictuelles, là aussi en histoire, avec la célèbre école des Annales, qui a mis en avant l'histoire, à la fois la longue durée, et qui a mis en avant les structures sociales, justement, et c'est en ce sens que sociologues et historiens se rejoignent dans la façon de faire, d'approcher la réalité. On revient davantage à l'histoire maintenant, une histoire événementielle et qui donne la place plus importante, disons, à l'action des hommes, c'est-à-dire des individus, on peut dire, dans leur histoire. Alors à la fois quand on fait de la micro-histoire, on regarde des réalités sociales très petites, mais aussi dans l'analyse, par exemple, dans l'histoire politique. Donc, des courants peuvent dire simplement c'est des structures qui évoluent, les rapports de classe, les rapports entre groupes sociaux, les rapports entre organisations qui font l'histoire, et d'autres qui, donc, vont mettre l'accent sur des initiatives, des penseurs, des grands hommes politiques, un De Gaulle, un Mitterrand, sont mis en avant donc pour leur rôle dans l'histoire elle-même. Là, il y a des tendances parmi les historiens et éventuellement des conflits. Bien entendu, je pense que chacune des approches a sa part de vérité. Donc, au bout du compte, l'intéressant, c'est que ces différentes approches peuvent coexister, voire s'affronter, éventuellement se retrouver.
Mmh. Alors, les champs de recherche ou les champs peut-être d'enseignement évoluent aussi avec la médiatisation qui évolue, avec aussi la mondialisation, avec l'internationalisation de certains problèmes, et on voit de plus en plus la géopolitique se développer.
Alors c'est vrai que ici, dans notre université, puisqu'on parle d'orientation de recherche dans notre université, c'est une dimension qui n'est pas très développée. Disons, si on prend la géopolitique, c'est-à-dire c'est un courant très important de la géographie. Il y a même des revues spécialisées en matière de géopolitique. Et c'est certain que c'est pas. Ceci étant, quand on a des collègues qui ici travaillent sur les géographes là, sur les frontières, les phénomènes de frontières, on atteint effectivement ce problème de géographie, de géopolitique, et on voit bien que bon nombre de guerres, et encore à l'actuelle, sont des conflits de frontières. On le voit par exemple avec le problème de l'eau et de l'accès à l'eau. Mm-hmm. Si on voit qu'un fleuve passe la frontière, dans un pays on fait un barrage, c'est le pays voisin qui manque d'eau, ou si dans un pays on pollue une rivière, c'est le pays voisin qui va. Voilà, donc il y a des conflits et l'accès à l'eau est sans doute effectivement une cause effectivement de conflits qui va se développer dans les années qui viennent. Mmh. Voilà, donc un exemple de question. Disons que qui est travaillé par exemple par nos collègues géographes de l'université quand ils travaillent sur les phénomènes de frontières. La frontière étant, il y a eu récemment d'ailleurs un cycle de conférences à l'USTL Culture sur une exposition sur la frontière, étant à la fois ce qui unit les gens, il y a une nécessité d'une frontière pour pouvoir se rencontrer, et en même temps ce qui sépare les hommes. C'est ça le paradoxe de la frontière. Voilà, effectivement, les géographes ont des choses à nous dire sur ce genre de phénomènes, et effectivement, il y a bien des incidences très concrètes lorsqu'on étudie les guerres. Si on voit, là, nous avons des collègues dans notre laboratoire qui travaillent sur la Bolivie, actuellement, entre les plateaux, on voit bien le partage des ressources naturelles et la géographie, si on regarde la géographie de la Bolivie, ses rapports avec les pays voisins, c'est un élément important, effectivement, de la situation politique intérieure à la Bolivie et de la rapport entre la Bolivie et les pays voisins.
Mmh. Non, c'est vrai que bon, il y a eu beaucoup de guerres dans l'histoire de France et d'autres pays. Est-ce que on commence vraiment maintenant à définir les origines de la guerre quant à ces différents centres d'intérêt, donc la recherche de l'énergie, la recherche de la maîtrise de l'eau, des matières premières, etc. C'est maintenant devenu presque courant de parler de ces enjeux, alors qu'auparavant on trouvait d'autres alibis à la guerre, non?
Ah, bah, l'accès aux ressources a toujours été un objet de guerre, hein. Je crois que c'est pas nouveau, même si maintenant, effectivement, ça se fait à une échelle sans doute plus importante. On raisonne à l'échelle mondiale et non plus entre continentale, hein, bien sûr. Mais je crois que l'accès aux ressources a toujours été. Mais ceci étant, les questions d'identité, les questions de peuples différents restent des moteurs importants de guerre. Voilà un sujet de travail sur les relations entre cultures, les relations, les constitutions d'identité, les conflits d'identité. Voilà des questions sur lesquelles travaillent certains de nos collègues, là.
Mais en même temps, on s'aperçoit quand il y a un intérêt commun, les pays ont tendance à justement colmater les brèches et à rendre une culture commune à des gens qui sont dissociés au départ.
Alors bon, je pense que notamment beaucoup de journalistes interprètent des conflits africains en termes de rapports interethniques. Que ce soit au Kenya, en Afrique du Sud, au Rwanda, bien entendu. Bon, les travaux qu'on peut mener, justement, et ici à Lille, selon nos gens ont travaillé ou travaillent sur ces questions, montrent effectivement comment ces catégories sont bien des catégories construites, et certes, qui ont une certaine efficacité à un moment donné, mais qu'on aurait tort de naturaliser, d'absolutiser. Avant le conflit en Bosnie, ce qu'on appelle les Serbes, les musulmans plus exactement, et les Croates de Bosnie s'entendaient plutôt bien, se mariaient ensemble, et il a fallu que des nationalismes, et notamment le nationalisme, pour le nommer, de Milosevic, se développent pour semer du conflit entre des gens qui jusqu'à là étaient plutôt de bon voisinage, et même plus que cela, puisqu'ils se vivaient bien ensemble. Donc, des résultats des travaux qu'on peut mener, c'est de se dire quel est le rôle jouent ces différences dites ethniques, et donc comment elles se constituent, et comment certains pouvoirs jouent avec ces catégories, ces oppositions, ces distinctions qui sont sur lesquelles qu'on va allumer, pourrait-on dire, pour créer du conflit. Mais là, bon, les analyses permettent historiques, justement, ou sociologiques, disons, démonter ces mécanismes et de voir les choses autrement.
En même temps, ces pouvoirs sont renforcés souvent par des aides extérieures, voire des enjeux qui dépassent le cadre local.
Ah oui, bien sûr. Non, ben, c'est certain que dans des conflits, on le voit actuellement au Liban. Bon, il y a bien entendu les Libanais ont quelques raisons de se disputer ensemble, mais il y a aussi des relations entre nations extérieures au Liban qui jouent sur ce conflit, bien entendu. Alors, c'est de la question. Alors, pour le coup, on revient à la géopolitique que vous évoquiez tout à l'heure, de relations internationales, de rapports de puissance à puissance. Et donc, ces rapports se focalisent effectivement en des lieux comme le Liban, mais ça a été en d'autres temps, effectivement, la Bosnie, ça a été en d'autres temps. Donc, à chaque fois, il y a effectivement un lieu où se cristallisent des oppositions, qui peuvent être des oppositions économiques, politiques, de confrontation de sphères d'influence, etc. Donc, effectivement, un conflit n'est jamais exclusif. Enfin, si, il peut l'être, mais est rarement exclusivement local.
Alors justement, face à cela, face à ces constats, on va dire, est-ce que l'éducation, l'enseignement, est-ce que étudier ces sciences peut permettre aux citoyens, à la population, de ne pas tomber dans ces pièges d'opposition d'ethnie, d'opposition de courant de pensée, alors que les enjeux sont bien au-delà de ça?
Oui, mais c'est une tâche permanente, enfin donc jamais terminée. Je pense que on s'aperçoit bien que les relations entre les hommes, elles sont pas uniquement guidées par la raison, que d'autres choses jouent précisément, qui font que l'éducation qui fait appel à la raison, à la compréhension des choses, a de l'effet. Je pense que c'est important. Montrer que les races, par exemple, n'existent pas. Je veux dire, les hommes sont tous semblables, même s'ils ont des couleurs de peau un peu différentes, mais ils sont tous semblables. C'est à la fois une philosophie, c'est-à-dire l'égalité entre les hommes, mais c'est en même temps appuyé par toutes les approches de sciences humaines et sociales. Mais vous n'empêcherez pas, malgré cela, les gens de s'opposer au nom de différences dites raciales. Bon.
Qu'est-ce que vous pensez du rôle, comment vous jugez le rôle du journalisme actuellement par rapport au rôle du sociologue dans son explication à la population des grands problèmes du monde?
Bon, je pense qu'on a un problème de temporalité. C'est-à-dire que bon, le sociologue est d'ailleurs beaucoup sollicité par les médias en disant « Bon, maintenant il se passe quelque chose, est-ce que vous voulez bien nous expliquer ?» Je pense que le sociologue, comme tout un chacun, c'est un citoyen comme tout le monde, il réagit avec ce qu'il est, donc il peut réagir comme ça, mais il ne réagit pas comme sociologue à ce moment-là, même si on lui affuble, s'il a bien son étiquette de sociologue, d'universitaire ou de chercheur. Parce que, précisément, ce qui distingue le journalisme de la sociologie, donc de toute science sociale, c'est que, pour étayer une opposition, ce n'est pas une opinion, effectivement. Un sociologue n'a pas une opinion, c'est qu'il est là pour démontrer quelque chose et mettre au point, comme un physicien ou comme un chimiste, au terme d'une procédure, donc une mise en œuvre d'une méthode qui lui permet de comprendre pourquoi les choses se passent de cette façon et pas autrement. Et donc là, il faut du temps. Et en général, le temps des médias, c'est l'instant. Et il faut donner tout de suite l'explication de la chose. Le sociologue, sauf s'il a déjà travaillé sur la question, n'est pas en mesure de, plus que quiconque, de donner une explication de la chose. Il faut bien entendu qu'il ait travaillé sur la question et qu'il ait mené des recherches précisément sur la question pour pouvoir répondre. C'est, je pense, la grande différence entre le journalisme et le sociologue. Ceci étant, les journalistes s'appuient sur les résultats des travaux de sociologie pour dans leur prise de position, dans leur information. Et là, je crois que les scientifiques que nous sommes à la disposition des citoyens et par l'intermédiaire du journaliste, éventuellement, pour leur faire part des résultats de nos découvertes. Modestes, forcément, mais toujours modestes. On n'a pas des explications de tout, mais on peut contribuer aussi à l'éclairage, c'est-à-dire politique, l'éducation, vous l'évoquiez à l'instant, des citoyens, bien entendu.
Donc ces recherches menées à Lille dans le domaine des sciences de l'homme et de la société, elles aboutissent à quoi actuellement? Qu'est-ce qu'on peut donner comme référence?
Oula. Alors d'abord, comme dans les autres disciplines, que ce soit la physique, les mathématiques, etc., les premiers destinataires des productions de nos domaines, ce sont d'abord nos collègues. Mm-hmm. Hein, donc ça prend la forme d'articles dans des revues, ça prend la forme d'ouvrages individuels ou collectifs, et qui sont objets de débat dans la communauté scientifique, dans nos disciplines. Donc c'est la première. Ensuite, effectivement, mais là aussi comme les autres disciplines, les ouvrages ou les publications. Je vois dans la presse régionale régulièrement tel ou tel collègue est interviewé sur une question. Là, récemment, un collègue politiste était interrogé sur l'engagement. Un collègue économiste était interrogé récemment, je ne sais plus exactement sur quel problème, sur l'explication du chômage, je ne sais plus. Bon, donc là, effectivement, nous pouvons, c'est par ce moyen-là, et vous parlez tout à l'heure des questions des journalistes, des médias, rendre compte à un public plus large des résultats de nos travaux. Mais disons que c'est de la même façon que les physiciens, les chimistes ou les mathématiciens, donc là, de ce point de vue-là.
Alors, est-ce que vous ressentez actuellement, objectivement, des dérives sociétales ?
Oh là là, oh là là.
En tant que sociologue, vous voudriez mettre l'accent sur quoi ? Sur quelles évolutions qui vous paraissent dangereuses, par exemple ?
C'est difficile de dire. Moi, justement, on ne va pas porter un jugement. Justement, moi, comme sociologue, je ne porte pas jugement. Mmh. Comme citoyen, certes, peut-être aussi, hein, bien sûr. Hein. Bon, si je prends l'exemple, ce sera intéressant. On a mis en avant les phénomènes d'individualisation, par exemple. Mmh. L'individualisation, c'est ni bien ni mal. Les aspects politiques, c'est-à-dire positifs, c'est-à-dire l'individualisation, c'est l'individu qui se libère de ses contraintes familiales, de groupe, et qui, comme sujet, prend en main son propre devenir. Bon, ceci étant, si c'est vu comme étant, d'un point de vue politique, on dit que c'est l'individu qui est maître de son destin, ça veut dire que, par exemple, si je suis chômeur, c'est à moi de me débrouiller. Donc ça, c'est l'aspect, on peut dire, négatif. C'est-à-dire, si c'est l'individualisation, si c'est l'aspect, c'est la rupture des liens de solidarité, que ce soit des solidarités de voisinage pour des gens qui sont en situation de migration, par exemple, ou que ce soit des liens de solidarité institutionnels, par exemple, lorsque on met à mal ou on menace le régime de retraite ou le régime d'indemnisation du chômage, etc., à ce moment-là, c'est le côté négatif de l'individualisation. Donc, il y a des aspects. Alors, un sociologue comme Robert Castel a bien mis ça en évidence là-dessus, l'individualisation négative de la personne qui se trouve seule, c'est-à-dire sans ressources. Mais l'individualisation, alors que dans notre société, précisément, l'individu qui réussit est présenté à tout le monde comme modèle. Bernard Tapie n'a plus beaucoup le vent en poupe actuellement, mais disons, il a été longtemps présenté comme un modèle de l'homme de la réussite sociale. Dans une société comme la nôtre, où effectivement chaque individu est sommé de réussir, effectivement, la question qui se pose, c'est qu'en est-il des gens qui, effectivement, échouent ? Et là, il y a une question à la fois éthique et une question politique de savoir comment ces gens-là, on les soutient, on les prend en charge collectivement.
Bien, merci, M. Bruno Durier. Juste pour conclure, si vous aviez un vœu à formuler ?
Un vœu. Oh là là, on pourrait avoir un vœu. Non, j'ai pas de vœux très spéciaux. Je veux dire, là, puisqu'on parlait quand même de recherche, là, vous nous avez guidé notre discussion sur, et de façon très judicieuse, sur ce que pouvaient apporter nos disciplines à la réflexion sociale. Il faut savoir qu'actuellement, nous, dans notre domaine, nous sommes dans des situations d'incertitude forte, puisque avec les transformations de la législation sur le fonctionnement des universités. Actuellement, le Centre national de recherche scientifique est dans des situations aussi de questionnement quant à son propre orientation, son propre devenir. Donc les chercheurs, nous sommes dans l'incertitude. Donc je pense, en tout cas, le souhait, c'est que cette incertitude se lève rapidement et, en tout état de cause, que la recherche comme telle continue d'être soutenue, et je pense que pour la France, c'est tout bénéfice que celle-ci continue d'être soutenue dans notre pays.
Merci, Monsieur Durier.